Il est 9h20.
France Inter, le 7-9, intervenez.
Au 01 45 24 7000, Hélène nous appelle de Charente-Maritime. Bonjour Hélène.
Bonjour Patrick Cohen.
Nous vous écoutons.
Bonjour monsieur, je suis formatrice en milieu rural dans l'Aunis, pas très loin de La Rochelle. Je forme des gens en situation d'illettrisme qui sont souvent demandeurs d'emploi. Et je voulais savoir où était Pôle emploi sur les territoires, parce que la nouvelle manière de s'inscrire, elle prend 45 minutes au bas mot. Il faut scanner des documents, il faut avoir quand même des techniques, il faut avoir un scanner, il faut avoir des compétences, et ces gens-là, ils les ont pas. Et donc, on est vraiment dans une situation d'apartheid technologique et de vis-à-vis de ces gens, parce qu'ils ne peuvent pas s'inscrire, que c'est difficile et qu'au final, c'est les associations qui font le boulot, qui leur donnent l'heure dont ils ont besoin pour s'inscrire. Et là, il y a un vrai problème parce que vous avez des conseillers formidables, mais pour l'inscription, c'est compliqué.
Vous parlez là de la plateforme en ligne qu'on évoquait tout à l'heure, dès le journal de 8h.
Pour nous, c'est vraiment ultra difficile et on est obligé de faire les inscriptions avec les gens et techniquement, ce n'est pas notre boulot.
Et il y a un problème de proximité d'implantation sur le territoire. Vous parlez des zones rurales,
voilà,
Hélène, à vos yeux.
Il est possible pour les gens qui sont déjà inscrits de voir leur conseiller directement dans la ville la plus proche. Mais pour un certain nombre d'actions, il faut aller à La Rochelle. Et La Rochelle, c'est le diable pour des gens qui n'ont pas le permis, qui n'ont pas de voiture et même pas la compétence parfois pour simplement se diriger dans une grande ville.
Merci pour cette question, Hélène. Restez avec nous, Jean Basser vous répond.
Oui, d'abord, je partage l'opinion d'Hélène. Les conseillers de Pôle emploi sont formidables. Donc ça, je suis content que ça soit affirmé par quelqu'un qui les connaît bien. Non, moi, je ne suis pas complètement d'accord avec Hélène pour la raison suivante. La situation avant, c'était qu'on devait venir en agence pour s'inscrire.
Ouais.
La situation désormais, c'est qu'on peut s'inscrire de chez soi par Internet. Et notamment ceux qui n'ont pas le permis et ceux qui n'ont pas de voiture, ils préfèrent, j'imagine, s'inscrire de chez eux que aller dans l'agence.
Ouais.
Et pour ceux qui n'ont pas Internet, on leur propose de venir
scanner,
en agence.
Disait,
mais oui, pas de scanner, ouais. Ils viennent en agence comme ouais. avant. Et qu'est-ce qu'ils vont trouver en agence? 2200 volontaires du service civique qui sont là uniquement pour aider les demandeurs d'emploi qui ne maîtrisent pas Internet à pouvoir s'inscrire par Internet.
Oui.
Et s'inscrire par Internet, c'est un service qu'on rend aussi aux demandeurs d'emploi. Parce qu'aujourd'hui, ne pas maîtriser Internet, c'est un handicap pour la recherche d'emploi. Donc, pour ceux qui n'ont pas Internet, la situation est améliorée par rapport à avant, puisqu'ils peuvent se déplacer en agence et là, ils sont assistés. Et pour ceux qui ont Internet, ils n'ont plus à se déplacer. Moi, je pense que cette orientation est la bonne.
En parlant d'aménagement du territoire, Thomas Legrand, tout à l'heure, faisait sa chronique sur les nouvelles régions, les grandes régions. Est-ce que vous calquez l'organisation administrative de Pôle emploi sur la nouvelle carte politique? Est-ce que vous fusionnez, vous aussi, des régions?
Puisque on a calé notre organisation sur celle des régions pour une raison extrêmement claire. C'est que les régions sont des partenaires très importants de Pôle emploi.
Oui.
On a parlé de la formation professionnelle, on pourrait parler du développement économique. Et nous avons actuellement avec les régions des discussions pour augmenter nos relations et développer ensemble des nouveaux axes de collaboration.
Ça veut dire que vous allez supprimer les sièges?
Non, c'est-à-dire qu'on a fusionné, oui. On a nommé un directeur, une directrice régionale par région.
Ouais.
On a gardé les implantations territoriales. Il y a encore deux ouais. sièges de direction régionale, il y avait deux régions.
Ouais.
Mais on a unifié le commandement.
Mais ça peut poser des problèmes dans les très grandes régions, s'il faut se déplacer au siège et traverser toute la région.
Non, mais les sièges de Pôle emploi, je vous rassure, Patrick Cohen, les demandeurs d'emploi n'y vont jamais.
Non, je ne parle pas de demandeurs d'emploi, je parle des cadres.
Les agences sont restées telles quelles. On n'a pas touché la carte des agences. Et je le dis à Hélène également, on a en gros 900 agences à Pôle emploi. On a fait les études précises. Toutes les agences sont à une demi-heure de chaque point de vie des Français.
Gilles nous appelle des Côtes d'Armor. Bonjour Gilles. Allô. Gilles.
Bonjour à toute l'équipe ainsi qu'à Nicole Ferroni puisqu'on a travaillé dans la même entreprise qu'on a acquise la même année.
Ah bon.
Et félicitations pour son spectacle que j'ai vu dans les Côtes d'Armor.
Très bien. Votre question Gilles.
Maintenant, si j'ai bien tout lu Freud, comme disait Coluche, il existe environ plus de 300 000 postes, enfin 300 000 emplois qui ne sont pas pourvus en France. Pourquoi ne peut-on pas obliger certains chômeurs à obliger ces chômeurs à occuper ces postes?
Merci pour cette question, Gilles. Ça revient souvent. Alors, ça revient assez souvent plutôt dans la bouche du patronat, la question des emplois non pourvus.
Alors, c'est une réalité. Nous, on a essayé de préciser quantitativement de quoi on parle. Et le nombre d'emplois non pourvus sur l'ensemble du territoire pour une année, c'est de l'ordre de 200 000. Donc c'est à la fois significatif, c'est pas non plus les chiffres qu'on entend par
ailleurs.
C'est
200 000 à l'instant T, c'est ça?
Non, sur l'ensemble de l'année.
Cumulé 200 000, sur l'année.
Alors, on parle bien, soyons clairs, hein, d'emplois non pourvus faute de candidats. Parce que c'est bien ça qui est l'objet de la discussion. La manière d'essayer de lutter contre cette situation, qui est effectivement pas normale, c'est de travailler sur la formation. Parce que dans beaucoup de cas, la raison qui fait que ces emplois ne sont pas pourvus, c'est que les qualifications ne sont pas là. Et donc, d'où le plan 500 000 qui permettra d'augmenter les qualifications. Après, on a un deuxième sujet, c'est les secteurs professionnels qui sont méconnus, qui font l'objet de stéréotypes. Et le rôle de Pôle emploi, c'est ce qu'on fait avec les branches professionnelles, c'est de préciser que tel secteur a beaucoup changé par rapport à l'image d'Épinal qu'on pourrait avoir. Quand on parle du bâtiment aujourd'hui, le bâtiment n'a rien à voir avec ce qu'on avait comme représentation il y a 30 ou 40 ans. Donc voilà, il faut travailler sur ces voies-là. Moi, la voie de la coercition, je n'y crois pas. Je pense que, par exemple, on ne force pas quelqu'un à aller en formation. Pour être formé, il faut avoir envie d'être formé.
Et à prendre un emploi, quel est le degré de contrainte ou de discussion où placez-vous le curseur?
Moi, j'ai une position personnelle assez précise sur le sujet. Il y a eu des grands débats en France sur l'offre raisonnable d'emploi, qui renvoie à cette problématique de vous êtes obligé de prendre un emploi s'il correspond à des conditions. Ce qu'on observe, c'est que c'est très peu pratiqué. En revanche, ce qui m'apparaît utile, c'est qu'on s'assure que les demandeurs d'emploi recherchent un travail. Donc, je préfère, moi, un contrôle qui porte sur la dynamique de recherche d'emploi qu'obliger quelqu'un à prendre tel ou tel emploi qui m'apparaît pas une bonne approche.
Aldric, au Standard Inter, bonjour.
Oui, bonjour à toute l'équipe du 7-9, bonjour Monsieur Basser.
Bonjour.
Vous avez à nouveau, comme les politiques et votre structure, lourdement insisté sur la nécessité de formation. Mais moi, avec un bac plus 5, lors de mon premier rendez-vous à Pôle emploi, je me suis entendu répondre littéralement « Ah, vous êtes trop diplômé, on ne pourra rien pour vous ». Donc, je voulais savoir si Pôle emploi était réservé finalement aux gens peu ou pas diplômés.
Merci, bon, Aldric.
Aldric, je regrette qu'on vous ait fait naturellement cette réponse. Ce qui est vrai, c'est qu'on l'offre à des personnes comme vous, qui sont des personnes diplômées, des services qui sont des services qui reposent notamment sur le numérique. Nous avons créé il y a quelque temps, avec tous les partenaires privés et publics, une plateforme de services en ligne qui s'appelle l'Emploi Store. Vous avez sur cette plateforme 200 services. Je suis persuadé qu'il y a des services qui correspondent à votre besoin. En revanche, et je souhaite que lorsque vous voulez avoir un renseignement à Pôle emploi, on vous ait une réponse dans les meilleurs délais. Ça peut être sous forme de mail ou rendez-vous si vous le souhaitez. Mais comprenez bien que les moyens qui sont les nôtres, je trouve légitime qu'on les concentre à ceux qui sont le plus en difficulté. Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, et y compris un patrimoine culturel. Et donc, il faut qu'on concentre nos efforts sur les personnes qui sont les plus éloignées de l'emploi. C'est ce que nous avons fait depuis 4 ans, puisque nous avons aujourd'hui 470 000 demandeurs d'emploi qui font l'objet d'un accompagnement plus intensif. Il y a 4 ans, il y en avait 70 000, et c'était le secteur privé qui le prenait en charge. Désormais, c'est le service public qui le prend en charge à une dimension plus importante. C'est ça notre objectif, mais monsieur... Enfin, je dis à Aldric, vraiment... qu'il aille sur Emploi Store, il verra la richesse des services qui lui sont proposés.
Les réseaux sociaux avec des questions, des interpellations. Marion Lourd.
Oui, vous parliez des chômeurs éloignés de l'emploi. Justement, Crazy Chômeur sur Twitter vous reproche d'attendre qu'un demandeur d'emploi devienne demandeur d'emploi longue durée pour vraiment vous en occuper à Pôle emploi.
Non, je crois que notre objectif, c'est d'éviter de basculer dans le chômage de longue durée. C'est pour ça qu'on a modifié tout le parcours d'inscription et qu'on fait en sorte que le premier entretien à Pôle emploi intervienne dans les 10 jours ou le mois de l'inscription. Et le premier rendez-vous qui suit dans les 2 mois, alors qu'aujourd'hui, c'était 4 mois. Donc, on accélère la prise de rendez-vous pour intervenir le plus en amont possible. Et donc, je crois que cette critique est pas complètement justifiée. Je suis pas en train de dire que tout va bien à Pôle emploi, hein, puisqu'on a, on en a conscience des marges de progrès. Mais quand on regarde objectivement nos résultats, on constate, par exemple, que vis-à-vis des entreprises, le taux de satisfaction, il est passé de 65 à 72%. Pourquoi? Parce que nous avons créé 4200 conseillers entreprises qui sont des conseillers de proximité et que du coup, la satisfaction a augmenté. Pour les demandeurs d'emploi, on est à 65% et j'ai bien pour ambition qu'on progresse encore dans ces résultats.
Alors, des questions aussi sur les services concurrents de Pôle emploi. Il y en a. Alors, je pense évidemment à l'initiative du président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, qui a créé un proche emploi en critiquant de fait l'inefficacité de Pôle emploi en mettant en place une propre service et une plateforme téléphonique. Et puis, question de Mathieu aussi qui est liée à cela. Quelle coopération de Pôle emploi avec les nouveaux sites de recrutement comme LinkedIn ou Viadeo, ne peut-on instituer une délégation de services publics, notamment pour les offres d'emploi des cadres? Mon entourage et moi-même ne recherchons et ne trouvons que sur ces sites.
Moi, je n'ai pas de concurrent. Je vais vous dire, moi, qu'un demandeur d'emploi trouve un emploi sur un site différent de Pôle emploi, je m'en félicite. L'essentiel, c'est qu'on trouve un emploi. À tel point qu'on a proposé à tous les sites privés et publics de s'allier à nous pour avoir sur pôle-emploi.fr toutes les offres d'emploi publiées. Aujourd'hui, sur pôle-emploi.fr, vous avez 600 000 offres. Elles n'ont pas toutes été déposées à Pôle emploi, et là, la majorité viennent d'autres sites. Donc, je n'ai aucun sujet pour collaborer avec les sites, quels qu'ils soient. D'ailleurs, je ne peux pas résister au plaisir de vous faire la comparaison avec Le Bon Coin, puisque actuellement, on me pose toujours la question, Le Bon Coin est un concurrent. Non, Le Bon Coin n'est pas un concurrent. Et d'ailleurs, quand Le Bon Coin veut recruter à Reims des télévendeurs, il fait appel à qui ? À Pôle emploi. Parce que notre métier, ce n'est pas de mettre des annonces en ligne. Notre métier, c'est aider une entreprise à trouver des candidats. Et lorsque vous devez chercher des candidats, vous pouvez avoir besoin de conseillers qui connaissent le marché du travail, qui connaissent les demandeurs d'emploi, qui montent des formations pour permettre de recruter. Et ça, c'est le métier de Pôle emploi. Et là-dessus, on n'a pas de concurrent. Proche emploi, c'est une autre logique. Nous, on travaille très bien avec la région Hauts-de-France. Ça fait partie d'une région avec laquelle on travaille très bien pour la formation. Xavier Bertrand, dans sa campagne électorale, avait voulu créer un dispositif en critiquant beaucoup Pôle emploi. Il le critiquait moins d'ailleurs quand il était ministre, alors que je trouve que Pôle emploi va mieux.
Oui, c'est un ancien ministre du Travail qui a eu Pôle emploi en tutelle.
Mais on a d'excellentes relations et on travaille avec les équipes de Proche emploi également. Quand des entreprises déposent des offres à Proche emploi, on essaye aussi de les prendre en charge. Donc on est dans un esprit de collaboration. On a tous intérêt à faire que le chômage diminue, quels que soient les intervenants.
Donc c'est un gadget. Le truc de Xavier Bertrand. Là.
Non, on verra au résultat. On verra au résultat.
Oui, enfin bon, votre sourire en dit long là-dessus. Michel au standard nous appelle de Strasbourg. Bonjour Michel.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Alors, je suis assistant de service social, donc je fréquente assez souvent Pôle emploi avec les personnes. Et actuellement, le leitmotiv, c'est mettez les gens en formation. Et en fait, on se rend compte que peu importe leur niveau, peu importe leur qualité, on les met en formation pour les mettre en formation. Le discours des personnes de Pôle emploi est toujours le même. Le président veut se représenter, alors on a le budget pour, on envoie en formation.
Merci Michel. Jean Basser, il y a une pression dans les agences envoyer les chômeurs en formation.
Excusez-moi de le dire, mais ce n'est pas ça la réalité. La réalité, c'est qu'on manque encore de crédit pour faire toutes les formations que les demandeurs d'emploi demandent.
Ah bon ?
Même en étant à 500 000, on n'épuise pas tous les besoins. Comparez-nous à d'autres pays, l'Allemagne, l'Autriche, les demandeurs d'emploi bénéficient de plus de formation. Et donc moi, aujourd'hui, c'est pas une pression, c'est naturel de que les conseillers puissent proposer à un demandeur d'emploi une solution. La formation, c'est une solution. On a un pays quand même assez curieux. Quand on fait un effort budgétaire d'1 milliard pour aider les chômeurs, on nous soupçonne de tas d'arrière-pensées. Non, moi je trouve que c'est bien de pouvoir consacrer de l'argent public à la formation des chômeurs.
Marion Lourd.
L'histoire de cette internaute, apparemment journaliste, qui raconte qu'elle a été convoquée par Pôle emploi pour se rendre dans un atelier de CV organisé par un prestataire privé. Elle n'a pas pu y aller, elle a été radiée. Et finalement, elle a retrouvé du travail, elle n'a jamais contesté sa radiation. Elle a dit qu'en gros, elle a retrouvé du boulot sans l'aide de Pôle emploi et de son conseiller imaginaire, je la cite. C'est emblématique de quelque chose, ça ?
Non, c'est pas emblématique. Le fait qu'on trouve du travail sans Pôle emploi, heureusement. Heureusement. Deuxièmement, le fait que quand vous vous inscrivez à un atelier, c'est-à-dire qu'on mobilise pour vous de l'argent public pour bénéficier d'une prestation, si vous n'y alliez pas, ça ne me paraît pas choquant qu'il y ait, de mon point de vue, une sanction. Et donc, le fait que quelqu'un convoque à un atelier, dès lors qu'il ait accepté d'y aller, si votre ami journaliste, votre interlocutrice,
ce n'est pas mon ami,
mais si
je ne la connais pas, j'ai fait une recherche sur elle, mais...
Si la personne dont vous parlez n'était pas volontaire pour aller en atelier, effectivement, c'est une bêtise. Si elle était volontaire, ça ne me choque pas.
Vous avez échoué à faire adopter une nouvelle classification des métiers, Jean Basser. On est resté à la classification ACEDIC pour tout un tas de raisons. Enfin, il y a eu des mois de négociations qui ont échoué. Ça peut provoquer des erreurs d'aiguillage pour certains demandeurs d'emploi, cette vieille classification qui est encore
Non, là, c'est vraiment un sujet interne. C'est la classification des emplois à Pôle emploi. Ouais. Je regrette qu'on a eu un accord qui était signé par des syndicats. Il y a eu un droit d'opposition exprimé par d'autres syndicats. Il y a toujours un contentieux juridique qui est porté dans la Cour de cassation. Donc, on va encore attendre quelques mois pour savoir si cette classification ou pas pourra être mise en œuvre. Non, mais ça n'a aucune conséquence, je veux vous rassurer, sur les demandeurs d'emploi, les entreprises qui font appel à nous.
La privatisation de Pôle emploi.
Alors moi, j'ai invité...
programme de Bruno Le Maire.
Je l'ai invité à visiter une agence de Pôle emploi, et discuter avec des conseillers, parce que je crois que ça témoigne d'une grande méconnaissance de notre fonctionnement. Et Bruno Le Maire, qui est un germaniste réputé, je lui suggère d'aller aussi voir ce qui se passe en Allemagne, où l'essentiel du service public est assuré par la Bundesagentur für Arbeit, qui travaille assez peu avec le secteur privé. Moi, j'ai rien contre le secteur privé en règle générale, mais qu'on m'explique en quoi le secteur privé est meilleur que le secteur public. On a des enquêtes qui montrent l'inverse, des études faites par des économistes qui montrent que l'efficacité et l'efficience est plutôt en faveur du service public. Donc, il ne faut pas être idéologue en la matière. Là aussi, jugeons au résultat.
Jean Basser, vous allez voir dans un instant ce qui se passe chez Nicole Ferroni.
Je redoute le pire.
Et puis, on va accueillir... bon, c'est comme chaque semaine. Et puis, on va accueillir Augustin Drapenard. Il est 9h05, bonjour Augustin Trapenard.
Salut Patrick.
Vous avez une question pour notre invité?
Oui, bonjour Jean Bassard, je vous ai bien écouté ce matin et je pensais entre les chiffres et les statistiques à ce témoignage aussi bouleversant que drôle de Margot Gilquin dans un livre qui s'appelle Le Dernier Salaire, publié aux éditions XO, je ne sais pas si vous en avez eu vent. Elle raconte la perte de son emploi et l'échéance des fins de droit d'indemnisation de Pôle emploi, et elle raconte aussi la honte en fait, la honte de ne pas avoir un travail, d'être un fardeau pour ses amis, sa famille. Elle a cette phrase très forte: nous sommes les déchets du monde du travail. Ma question elle est simple: au-delà de l'accompagnement, au-delà de la formation, que peut Pôle emploi pour aider à déculpabiliser le demandeur d'emploi?
C'est une question assez grave pour moi, puisque lorsqu'on est confronté à la réalité du chômage et qu'on rencontre des chômeurs, notamment des chômeurs longue durée, on perçoit ce que vous venez de dire, il y a une désociabilisation qui est quelque chose d'assez tragique. On a essayé avec une association qui s'appelle SNC, qui soutient les chômeurs, de monter une pièce de théâtre pour illustrer ce qu'est la détresse que peut rencontrer un demandeur d'emploi. Et donc, comment ça fait partie des choses qu'on peut essayer de mobiliser. Je pense que la culture peut être pour nous un moyen pour faire prendre plus conscience de la difficulté, la gravité du chômage. Moi, la chose qui m'insupporte le plus quand j'entends parler des chômeurs, c'est cette image qu'on leur renvoie de personnes qui sont en attente de travail, qui ne cherchent pas vraiment, qui bénéficient du système de protection sociale. Moi, je crois que là, c'est vraiment une image qu'il faut vraiment combattre absolument. Le chômage peut être une vraie calamité, et les conseillers pour l'emploi font de ce point de vue un métier qui mériterait d'être plus reconnu. Ce sont ceux qui, au quotidien, aident les demandeurs d'emploi à sortir de cette situation difficile, et je veux vraiment aussi leur rendre hommage aujourd'hui, parce qu'ils font un métier qui n'est pas facile et qui, à mon avis, bénéficierait de plus de coups de chapeau.